Merci d'écouter RFI, 21h à Paris, 14h à Chicago, 20h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Un premier coup d'accélérateur dans la politique anti-immigration de Donald Trump aux États-Unis. C'est en tout cas ce que veut montrer son administration en annonçant lancer plusieurs raids anti-migrants dans des villes fiefs des démocrates comme Chicago. Explication à suivre de David Thompson, le président américain qui s'est aussi exprimé à distance en marge du forum économique de Davos en Suisse. Un message très clair à destination des chefs d'entreprise du monde entier. Produisez aux États-Unis ou bien vous paierez des droits de douane. Les combats qui se poursuivent autour de la cité de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis une performance majuscule pour Emilia Pérez. Le film de Jacques Audiard, le réalisateur français, nominé dans 13 catégories aux Oscars, dont celui du meilleur film, un record pour un film non anglophone. Mettre en scène l'une des grandes promesses de campagne de Donald Trump, l'expulsion de masse des immigrés clandestins. Ce matin, 3 jours après l'investiture du président américain, la police de l'immigration américaine annonce avoir lancé plusieurs raids pour arrêter des migrants en situation irrégulière. Très symboliquement, ces premiers raids ont visé des villes sanctuaires, des fiefs démocrates qui justement s'opposent à la police anti-immigration de Donald Trump, David Thompson.
Ces premiers raids anti-migrants ont été lancés au petit matin à Chicago et à Boston. Deux cibles qui ne doivent rien au hasard. Ce sont deux bastions démocrates, deux villes sanctuaires, donc pro-migrants. À Chicago, le maire a promis de s'opposer à cette politique d'expulsion de masse et aux rafles de migrants dans sa ville. En réponse, Tom Homan, l'homme que Donald Trump a nommé tsar des frontières pour expulser les migrants, a menacé de poursuivre en justice ce maire de Chicago s'il l'empêchait de mener à bien sa mission. On sait encore peu de choses sur l'ampleur de ces premières arrestations. CICE, la police anti-immigration, a choisi de médiatiser en acceptant dans ses rangs les caméras de la chaîne conservatrice Fox News. Ces premiers raids ne visent pas des familles, ils ciblent uniquement des individus déjà condamnés et recherchés par la police pour des faits de violence grave. L'administration Trump fait donc ainsi coup double avec ses premiers raids en frappant chez les démocrates pro-immigration et en arrêtant des sans-papiers déjà condamnés pour montrer que cette politique anti-immigration de Donald Trump vise d'abord à assurer la sécurité des citoyens américains. David Thompson, Miami RFI.
L'une des mesures emblématiques de la politique anti-immigration de Donald Trump, c'était la remise en cause du droit du sol. Le président américain avait signé un décret dans ce sens lundi lors de son investiture, mais ce jeudi, un juge fédéral a suspendu temporairement ce texte. Il est inconstitutionnel, selon le magistrat. Aux États-Unis, obtenir la nationalité américaine en étant né sur le sol américain est un droit pourtant protégé par le 14e amendement de la Constitution. Et parmi les zones au cœur de la politique anti-immigrante de Donald Trump, la frontière avec le Mexique. Côté mexicain, des dizaines de tentes sont en cours de construction. Elles pourront accueillir les personnes expulsées. C'est ce qu'a annoncé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum aujourd'hui. Des refuges érigés tout au long des 3100 km de frontière partagées par les deux pays dans le cadre d'une opération baptisée « Le Mexique reçoit à bras ouverts ». Et puis, lors d'un discours prononcé à distance en marge du Forum économique de Davos en Suisse, le milliardaire républicain a aussi tenu à s'adresser directement aux chefs d'entreprise réunis avec un message oscillant entre séduction et menace. Écoutez.
Mon message à toutes les entreprises du monde est très simple. Venez produire aux États-Unis et vous bénéficierez de taxes parmi les plus basses de la planète. Nous les baissons de manière très substantielle, encore plus que lors de mon premier mandat. Mais si vous ne venez pas produire aux États-Unis, ce qui est votre droit, vous devrez payer des droits de douane qui nous permettront de remplir nos caisses de centaines de milliards de dollars et même de milliers de milliards de dollars pour renforcer notre économie et effacer nos dettes. Sous l'administration Trump, il n'y aura pas de meilleur endroit sur Terre pour créer des emplois, construire des usines ou créer une entreprise qu'ici, dans ces bons vieux États-Unis. Vous pouvez peut-être déjà le voir dans cette merveilleuse salle où tant de mes amis sont réunis, mais aux États-Unis, la confiance dans l'économie monte comme jamais depuis des dizaines d'années. Peut-être même que ça n'a jamais été le cas à ce point-là.
Félix Tshisekedi, lui, est rentré de Davos ce jeudi. Le président de la République démocratique du Congo est à Kinshasa où il est informé heure par heure de l'évolution des combats dans l'est du pays selon son entourage. Ces affrontements entre l'armée congolaise ainsi que ses alliés face aux combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont poursuivis aujourd'hui autour de la cité de Sake. C'est à une vingtaine de kilomètres de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Demain matin, en parallèle du traditionnel Conseil des ministres du vendredi, le chef de l'État réunira un Conseil national de la défense. Aux Philippines, les plaies du Bang Samoro rouvertes après une attaque sanglante. Dans cette région autonome musulmane du sud de l'archipel, 2 soldats philippins ont été tués et 12 autres blessés hier mercredi sur l'île de Basilan. Ils escortaient alors une délégation des Nations Unies. Cette zone reste sensible malgré des accords de paix pourtant signés il y a quelques années entre des séparatistes et le gouvernement de ce pays à 80% catholique. Le drame de mercredi rappelle que plusieurs menaces restent toutefois actives, Nemo Lecoq James.
À première vue, les tireurs sont des membres d'un groupe rebelle dirigé par 2 combattants islamistes connus dans la région. Mais ils n'étaient pas seuls et l'identification des autres assaillants a provoqué une onde de choc pour les forces armées philippines. En fait, certains d'entre eux ont été reconnus comme des membres du Front Moro Islamique de Libération, le MILF. C'est le plus gros groupe islamiste de la région et c'est eux qui ont négocié, il y a 10 ans, avec le gouvernement philippin, des accords de paix. Parce que jusqu'en 2014, le MILF combattait contre le gouvernement, dans le but d'établir un État islamique indépendant. Aujourd'hui, les relations entre le groupe et l'État philippin sont donc bien meilleures. En 2019, le Bang Samoro, donc la région autonome musulmane, a été reconnue et les premières élections sont censées avoir lieu au mois de mai. Alors pourquoi certains des membres du groupe ont-ils attaqué des soldats philippins ? Cette question, elle provoque de grandes inquiétudes quant au rôle du MILF dans la recherche de stabilité dans la région. Le gouvernement a appelé le MILF à enquêter sur les individus minoritaires de son groupe qui cherchent à entraver les efforts de paix. Nemlokok James Mani, RFI.
En France, le ressortissant pakistanais de 29 ans, jugé pour avoir tenté de tuer au hachoir 2 personnes devant les locaux de Charlie Hebdo, a été condamné ce jeudi à 30 ans de prison. L'attaque avait eu lieu en septembre 2020. L'assaillant pensait alors s'en prendre à des journalistes de l'hebdomadaire satirique. Et puis la confirmation d'un succès avant peut-être la consécration. Déjà récompensé au Festival de Cannes, le film Emilia Pérez du cinéaste français Jacques Audiard sera nominé dans 13 catégories aux Oscars, notamment celle de meilleur film et de meilleur réalisateur. C'est un record pour un film non anglophone. Carla Sofia Gascón sera aussi la première comédienne ouvertement transgenre nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. La cérémonie se tiendra le 2 mars à Los Angeles. Et puis la difficulté de retrouver sa famille lorsqu'on y est devenu étranger. C'est le cœur de la pièce Par les villages de Peter Handke, transposé actuellement au théâtre par Sébastien Kérouffi. Le metteur en scène d'origine algérienne a délaissé le cadre rural autrichien de l'œuvre originale, lui préférant sa banlieue parisienne. On y retrouve Reda Kateb qui incarne Grégor, un écrivain qui revient chez lui. Une pièce présentée au Festival d'automne est jouée cette semaine au Théâtre des Quartiers d'Ivry, en région parisienne. Muriel Mahalouf vous l'a fait découvrir.
Par les villages raconte l'histoire d'un transfuge qui revient dans son village. Étranger parmi les siens, il les écoute. Sébastien Kérouffi, metteur en scène.
Ce texte-là, je l'ai entendu à l'endroit de ma cité. Ça résonne très fort pour moi, la question des offensés, des exploités, des humiliés.
Aux côtés des acteurs, une centaine de personnes sur scène forment le chœur et représentent le peuple. Ce sont des habitants d'Ivry qui donnent une vraie puissance à la pièce. Reda Kateb joue le rôle de l'écrivain qui revient chez lui.
Grégor, l'écrivain qui n'a plus vraiment accès à cette famille ni accès à cette langue. Donc on lui parle en arabe et il répond en français, comme c'est le cas dans beaucoup de familles aussi, où les dialogues entre les parents et les enfants se font souvent de cette manière-là, pour 1000 raisons dues à leur histoire.
Sur scène se mélangent les langues algérien, créole, français. Et si la douleur est palpable et le rapport de classe violent, la pièce ne sombre pas dans le désespoir, grâce à la musique et au rap, vecteur d'espoir.
Regardez le jardin d'Éden et ne vous laissez pas convaincre qu'il n'y a pas de beauté. C'est la beauté créée par nous qui est mouvante.
Et c'est Kazé, la rappeuse, qui clôt la pièce avec sa poésie galvanisatrice.
Nous réveiller le matin et aller nous reposer le soir. N'y a-t-il pas eu déjà beaucoup de nuits sans peur, front contre front, avec un enfant, un animal ou l'air calme ? Et ne vous êtes-vous pas reconnu dans le contour des constellations ?
Sujet signé Muriel Mahalouf qui recevra le metteur en scène Sébastien Kérouffi dans 24 heures en France pour parler de cette pièce Par les villages. Rendez-vous autour de 22h10 temps universel. C'est la fin de ce journal sur RFI, 21h10 à Paris.